Un grand bonsoir à toutes et à tous pour une rencontre ce soir avec Fanny Chiarello et Pierre Rigaud, intitulée « Un récit sensiblement antispéciste » et qui nous permettra d'envisager cette question des animaux, des présences animales et de ce que les hommes font aux animaux à travers deux textes, l'un de Fanny Chiarello intitulé « Spécimen sensible » et l'autre de Pierre Rigaud, Pas de fusil dans la nature, sous-titré « Les réponses aux chasseurs ». Je me permets de présenter nos deux invités par ordre alphabétique. Fanny Chiarello est poétesse et romancière. Elle a une œuvre qui est une œuvre d'une grande richesse avec de multiples supports. On peut dire qu'elle expérimente des supports les plus variés. À la fois des récits, à la fois du côté de la musique expérimentale ou à travers un collectif de réflexion itinérant pluridisciplinaire qui s'appelle Vertébral avec la compositrice Aude Rabillon et l'autrice Florentine Ray. Elle est notamment connue pour plusieurs récits publiés chez L'Olivier, mais le texte qui va nous arrêter plus particulièrement ce soir, ces spécimens sensibles publiés chez Cambourakis dans la collection Récits d'objets, et nous reviendrons sur le titre de cette collection. Pierre Rigaud, vous êtes un expert naturaliste du monde animal et végétal. Vous avez mené des études de biologie et de géographie. Et lorsqu'on s'intéresse à vous, vous êtes présenté sur Internet comme un naturaliste de terrain. J'aime beaucoup cette formule, naturaliste de terrain. Vous avez travaillé pour différentes associations de protection de la nature et vous engagez au quotidien pour la défense de la cause animale. Vous avez publié plusieurs textes à ce sujet, notamment Pas de fusil dans la nature et de nombreuses vidéos YouTube où vous travaillez notamment pour la défense des loups. Je voudrais commencer ensemble cette discussion autour du texte de Fanny Chiarello, Spécimen sensible. Alors c'est un texte qui s'inscrit dans une collection intitulée Récits d'objets et qui a été créé par le musée des confluences de Lyon. Alors c'est un texte hybride, puisque c'est à la fois un récit, un essai philosophique, un texte d'engagement politique pour notre rapport au vivant. Et c'est un texte qui est constitué en quelque sorte d'une alternance entre une réflexion sur notre rapport au vivant, sur le geste de la taxidermie, sur aussi ce que nous faisons des cadavres d'animaux dans les musées d'histoire naturelle, et qui trame cette réflexion avec un récit, qui est un récit d'une tentative échouée de sauvetage de 7 canetons dans une retenue d'eau à la lisière d'un supermarché. Alors, ce récit et cette réflexion vont se nouer, se relancer en permanence et, je dirais, mettre en avant l'indifférence des êtres humains envers les animaux. Et cette question de l'indifférence, nous y reviendrons, et sur comment lutter contre l'indifférence. Alors peut-être pour commencer par ce texte, Fanny, je voudrais qu'on redessine un peu ce qu'est cette collection, en soulignant d'abord que c'est une collection qui fonctionne à partir d'une commande, à partir d'une sollicitation. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur cette sollicitation, sur le plaisir ou au contraire le sentiment de contrainte que suscite le fait d'avoir une commande de la part de cette collection Récits d'objets du Musée des Confluences.
Alors, le texte est d'ailleurs une coédition de Cambourakis et du Musée des Confluences. Le musée aime qu'on le précise. Et quand Laurence Bourgeon, mon éditrice, j'avais déjà fait un livre avec Cambourakis, que j'avais écrit à quatre mains avec Wendy Delhomme. Donc, quand Laurence m'a appelée pour me proposer de m'inscrire dans cette collection, c'était pour moi inespéré parce que ça faisait très longtemps que j'attendais une occasion de pouvoir parler du rapport de la plupart des êtres humains aux animaux. Et que j'étais encore très tiède. Et d'ailleurs, j'ai relu tout à l'heure dans le train le livre parce qu'il me semblait déjà un petit peu loin pour être sûre que je me rappelais bien ce que j'avais mis et ce que je n'avais pas mis. Parce que dans mon esprit, il est très militant. Mais avec le temps, déjà, ça fait pas si longtemps que je l'ai écrit pourtant, hein, je le trouve très modéré. Je pense que je serais beaucoup plus radicale si je l'écrivais aujourd'hui. Mais peut-être que ça ne conviendrait pas, parce que de toute façon, ce texte, parmi les contraintes, il y avait, bon, les contraintes, c'était la longueur du texte, c'était de choisir donc un objet. Personnellement, je préfère appeler ça une pièce, parce que bon, ça a plus une connotation muséale, mais j'aime pas trop, évidemment, qu'on parle d'un objet dans la mesure où j'ai choisi un animal empaillé. Est-ce qu'un animal empaillé cesse d'être un animal ? On va se poser la question en imaginant, pas en imaginant, mais en se rappelant les êtres humains qui ont été empaillés à une époque et qu'on continuait d'appeler des êtres humains. Et puis, il y avait le fait d'avoir un récit, donc de ne pas juste partir dans mes digressions habituelles sur divers thèmes. Et moi, je me suis mis une contrainte supplémentaire qui était de ne pas cracher dans la soupe, en quelque sorte. C'est-à-dire de pas attaquer trop brutalement le musée, parce qu'un musée d'histoire naturelle repose en partie sur le fait de naturaliser des animaux.
Alors, c'est donc, pour la contrainte, un récit, une taille et un choix d'objet, entre guillemets. Ce choix d'objet, c'est un canard colvert. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce choix d'objet, parce qu'il est un peu thématisé à l'intérieur du récit, il est problématisé même. Ce canard colvert, ce n'est pas le lion, ce n'est pas l'ours, hein, puisque vous évoquez l'enchantement, l'émerveillement des enfants qui, déambulant dans les musées, s'arrêtent devant l'ours, s'arrêtent devant le lion. Pourquoi ce canard colvert ?
Alors, d'abord, en effet, parce que le canard est, j'ai écrit quelques pages là-dessus, c'est, personne ne s'intéresse au canard, personne ne regarde le canard dans sa vitrine, malgré sa position vraiment très mise en scène. Hein, il regarde autour de lui en se posant, ce qui n'arrive pas dans la vie réelle. Et bon, le fait que les gens ne s'intéressent pas au canard parce que c'est un animal qui n'est ni protégé, ni en danger, ni nuisible selon les termes habituels, il n'intéresse personne, il est trop commun. Et pour cette raison, j'ai une affection particulière pour lui. Beaucoup de livres sont faits sur les animaux, mais souvent ce sont des animaux qui sont assez exotiques et qui sont chargés de toute une fantasmagorie, quoi. On fantasme le lion, on fantasme beaucoup d'animaux, mais ou alors les grands prédateurs. Les grands prédateurs sont des sujets très commodes à une période où ils peuvent cristalliser toutes les crispations qu'il peut y avoir entre les écologistes et les chasseurs, à savoir les lobbies, à savoir le pouvoir. Pierre en parlera sans doute mieux que moi. Et donc, en fait, ce canard qui n'intéresse personne m'intéresse pour ça. Et par ailleurs, j'avais promis, ce qui ne sert à rien, puisqu'ils étaient morts, et puis de toute façon, ils n'étaient pas humains, et qu'ils n'en avaient rien à faire de ce que je leur disais. Mais j'avais promis à Seth Canton, qui était donc né et mort dans un bassin de rétention de supermarché, de rendre justice, d'écrire ce qui leur est arrivé pour que ça ne reste pas simplement quelque chose qui n'a aucune importance, comme ça s'est passé dans le réel.
Donc ce n'est pas un choix qui relève seulement de l'attention à l'animal, de l'attention au vivant, mais c'est l'attention à l'ordinaire de l'animal, l'attention au commun de l'animal, et donc qui déplace en quelque sorte aussi le degré d'attention au monde en étant attentif à ce qui peut surgir de plus commun autour de nous. Je voudrais qu'on revienne toujours sur cette collection. Vous avez souligné il y a un instant qu'il ne s'agissait pas pour vous d'être dans un rapport offensif par rapport au musée des Confluences, au musée d'histoire naturelle. Il y a quand même une certaine problématisation de ce qu'est le musée, de ce qu'est un musée qui expose des cadavres d'animaux en les désignant comme des objets. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le livre sur la couverture, on voit les crédits attribués à la photographie de l'objet et non pas à la photographie de l'animal. Est-ce que vous pourriez lire peut-être la citation que vous avez choisie en exergue, qui me semble une très belle citation et qui me semble vraiment problématiser cette transformation qu'un musée fait de l'animal en objet ?
Alors, c'est une citation de Olga Tokarczuk, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, désolée. Confectionner des chaussures, des canapés, des sacs avec un ventre, s'envelopper d'un pelage pour se réchauffer, manger un corps, le découper en morceaux, puis le faire frire dans l'huile. Est-ce possible que ces monstruosités aient vraiment lieu ? Cette tuerie gigantesque, organisée, cruelle et impassible, mécanique, sans aucun remords, sans la moindre réflexion, car la réflexion, on la réserve plutôt à des philosophes, à des philosophies, à des théologies inventées de toutes pièces. Quel est ce monde où la tuerie et la souffrance sont érigées en normes ?
Merci beaucoup, Fanny. Alors, vous voyez, au-delà de la dénonciation de la tuerie et de la souffrance, il y a aussi cette dénonciation de la transformation du vivant en objet. Cette objectivation qui a lieu à l'intérieur de ces musées, puisqu'on transforme le vivant en objet de savoir. Il me semble que dans tout le début de votre texte, vous ne cessez de problématiser ça. Est-ce que les animaux, même empaillés, sont des objets ? Comment les désigner même ?
Je dois préciser que la commande m'a été passée par un musée, ce qui m'a permis, donc, en choisissant le canard, j'ai pu parler de quelque chose qui, à mes yeux, est beaucoup plus général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'élevage, le terme il n'est pas juste, il n'est plus du tout adapté. Il faudrait parler d'usine. Aujourd'hui, les animaux, pour la plupart, sont de la matière. J'avais vu l'autre jour, il y avait un camembert avec la part des êtres humains, la part des animaux sauvages et la part des animaux d'élevage ou dits domestiques. Et je ne sais plus, est-ce que vous en souvenez, Pierre, vous avez dû le voir aussi. Je crois que
c'était en biomasse pour les mammifères, par exemple. Oui. La part des, si on prend tous les mammifères donc, et qu'on les classe en trois catégories, les humains, les animaux, les mammifères dits sauvages et les mammifères dits domestiques ou d'élevage. Eh bien, c'est les humains et les mammifères domestiques d'élevage qui représentent, mais vraiment, alors j'ai plus le chiffre, mais une proportion gigantesque par rapport aux mammifères sauvages. Si on prend toutes les baleines, tous les éléphants, tous les rats de Paris, tous les loups, qu'on les met ensemble dans la balance, ils pèsent quasiment rien par rapport à...
6%, quelque chose comme ça, je crois.
Ça doit être de cet ordre-là.
Oui. Et la grande majorité des êtres vivants sur cette planète sont des êtres vivants qui sont considérés comme des objets, comme de la matière, que l'on peut transformer pour... nos besoins, ou peut-être pour même pas pour des, par exemple ce que dit Olga Tokarczuk, c'est ça quoi. Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir un sac en cuir? Qui a besoin d'un putain de sac en cuir? Personne. Je veux dire, c'est totalement barbare. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis sentie moins seule, parce qu'on rencontre peu de gens qui remettent en question ce qui est vraiment un présupposé dans notre société, c'est que le reste de ce qui existe, le reste du vivant, et je parle des arbres aussi un tout petit peu, c'était pas mon sujet, mais en fait, tout est à notre disposition. Parce que nous sommes supérieurs. Pourquoi sommes-nous supérieurs ? Parce que nous avons des pouces opposables, que nous avons inventé des tas de trucs passionnants comme la bombe atomique et les abattoirs et quelques trucs comme ça. Et ça nous donne le droit de disposer de tout le reste. Et donc, pour moi, le questionnement sur le musée était une espèce de métonymie d'un questionnement beaucoup plus vaste sur notre rapport au vivant. Complètement aberrant. Et moi, quelquefois, je me sens totalement en décalage dans cette société, parce que on passe pour des extrémistes quand on pense comme ça. Et pour moi, le fait, par exemple, j'ai pas mal de contacts, par exemple, sur Instagram, qui sont des gens qui sont très très militants pour des causes, pour le féminisme, pour plein de choses. Et on les voit, donc en manif, et puis après, on voit des photos de plaves carnées. Et pour moi, c'est incompréhensible. Je me dis, mais comment vous pouvez être assez auto-centré, être assez égoïste, avoir la vue assez courte pour ne pas vous rendre compte de l'ignominie de ce que vous êtes en train de faire, de l'injustice totale, de là où vous mettez vos luttes, en fait. C'est vraiment pas voir très large, je trouve. Et donc, le musée, c'était une espèce de tremplin pour parler de ça, en fait. C'était ça qui m'intéressait.
Alors, le musée, c'est un support pour parler de nos dominations du monde animal et de ce que nous faisons en termes d'appropriation de ce monde animal. Et c'est aussi pour vous un support pour réfléchir à ce que le langage peut faire ou ne pas faire pour le monde animal. avec une réflexion qui court dans tout le livre et que j'aimerais bien mettre en dialogue avec ce que fait Pierre aussi. Je vous cite, « Je veux parler pour les non-humains sans le faire en leur nom, si cela m'est possible. Je veux essayer. » Est-ce que vous pourriez déplier un petit peu cette formule et distinguer « je parlais pour » et non pas « en leur nom » ce que ça implique et ce que ça implique peut-être d'un point de vue littéraire. Hein, comment est-ce qu'on s'approche de cette parole « pour » qui ne soit pas parole d'appropriation ?
C'est vraiment très compliqué et j'essaye de lire beaucoup de romans qui s'attaquent à cette question. Et j'ai souvent beaucoup de colère parce qu'il y a des choses qui sont peut-être faites maladroitement j'ai conscience du fait que je peux moi aussi être très maladroite et m'arroger le droit de parler d'un état que je ne connais pas. Quand on décrit une souffrance comme la souffrance des animaux qui n'ont pas le même langage que nous, on s'approprie forcément leur souffrance parce qu'on ne peut pas. On ne sait pas déjà. Et puis, on sera toujours en deçà. Et alors, il y a diverses stratégies pour essayer de susciter de l'empathie chez les lecteurs. Par exemple, prendre la parole pour les animaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment un auteur, une autrice qui devient une vache, qui devient un animal ou un autre et puis après il y a la stratégie que j'ai moi adoptée à certains moments qui est imaginer maintenant remplacer l'animal dont nous sommes en train de parler par un être humain et qu'est-ce que ça suscite chez vous et pourquoi quand un animal vit cette situation qui vous semble insupportable quand il s'agit d'un humain, pourquoi cette situation pour un animal vous semble c'est pas très important, quoi. Il y a quand même des sujets plus importants sur Terre. C'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Et j'espère qu'avec ce parallèle-là, on arrive aussi à déclencher quelques prises de conscience. Mais je crains que l'empathie ne soit pas quelque chose qui se... C'est pas très contagieux, je crois pas.
On reviendra peut-être sur la différence entre empathie et sensibilité parce que la question de la sensibilité elle est, me semble au cœur de votre travail tous les deux. Je voudrais rebondir sur cette question de parler pour avec votre travail Pierre parce que votre travail qui est un travail de dénonciation, de critique du discours de la chasse, d'une idéologie de la chasse est un discours qui se fait vers les humains. Une argumentation vers les humains. Mais est-ce que vous avez aussi le sentiment que dans cette argumentation vers les humains, il y a quelque chose comme une manière de prendre en charge, témoigner de la souffrance animale, enfin, c'est-à-dire essayer d'amener le monde animal vers les humains?
C'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête d'un autre humain, je pense qu'on est tous d'accord. Alors c'est encore plus difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête d'un chien, ce qu'il y a dans la tête d'un poisson, d'un chevreuil ou d'une mésange. Mais il y a maintenant des données scientifiques qui sont incontestables et il est clair que les mammifères, les oiseaux, beaucoup d'autres groupes d'espèces animales ressentent du plaisir, de la joie, de la souffrance, de la peur, sont attirés, sont révulsés. Enfin, c'est même sans arriver à un degré de compréhension précise de ce que vivent en termes de ce qu'on peut vivre comme une vie subjective un individu animal, on sait que un cerf qui court pendant des heures poursuivi par des chasseurs ou bien qui se prend une balle dans le flanc, il souffre, enfin c'est incontestable. Pourtant, il y a une grande partie des chasseurs dans leur discours, mais on parle de la chasse parce que ce livre-là est sur la chasse, mais ça pourrait être la même chose dans le cas de l'élevage. Il y a une grande partie du discours qui nie complètement ces émotions ressenties par les animaux. Il y a des cas encore que la science discute. Est-ce que tel type d'insecte ressent tel type d'émotion ou a telle sensibilité? Mais il y en a pour qui c'est absolument incontestable. Nous sommes des mammifères, les autres mammifères ont du plaisir comme nous et ont des douleurs comme nous et ont de la souffrance comme nous. Alors, parler pour ou... On pourra jamais, enfin, on pourra, peut-être je m'éloigne de la question, mais peut-être je pense qu'on pourra jamais essayer de se mettre à la place du chevreuil qui reçoit une balle de chasseur. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas la parole pour se défendre. Et donc, très clairement, que ce soit des chevreuils à la chasse ou que ce soit des lapins dans l'industrie de l'exploitation de la chair animale ou qu'on appelle élevage, ces animaux-là sont plus que soumis. Enfin, ils ne sont rien et ils n'existent pas en tant qu'individus. Et le chasseur qui dit « non, mais l'animal ne souffre pas, le cerf aime bien courir, c'est dans sa nature ». Et le lapin, il est bien dans une cage parce que je lui donne du foin et de l'eau. C'est des discours, peut-être quand on le dit comme ça de façon brute, on dit oui, mais quand même, il exagère. Mais non, c'est en fait le discours auquel on est confronté sans cesse. Donc on est obligé d'un peu de prendre en charge ça et de dire que... alors pour ce qui me concerne, on essaye en tant que militant de faire évoluer la réglementation, c'est le but à la fin. Donc on essaie de montrer qu'il y a une inadéquation entre les discours autour d'une pratique, par exemple la chasse, qui génère énormément de souffrance, le plus souvent de façon absolument inutile, même par rapport aux bénéfices qu'on prétend en retirer, je pense. Et une inadéquation entre ça et le droit, en fait. Je ne suis pas juriste, mais il est très clair que la souffrance animale n'est que très très peu mentionnée dans le droit, et que donc, en fait, on a le droit, en France, mais dans d'autres pays, de faire souffrir sans nécessité des mammifères ou des oiseaux. Donc, pour montrer qu'il faut faire évoluer le droit de façon hyper, je l'espère, logique et rationnelle, en fait, et même sans faire appel à de la sensibilité, enfin, on est obligé d'essayer d'une manière ou d'une autre de montrer que les animaux souffrent quand on les met en situation de souffrir de façon volontaire, quoi. Donc on est obligé de simplement de rappeler ce qui est quand même une évidence, enfin, qui est scientifiquement une évidence depuis quand même plusieurs, au moins décennies, s'il y avait besoin de prouver que les animaux souffrent. En fait, c'est évidemment depuis plus longtemps que ça qu'on le sait.
Alors, il me semble qu'un des traits communs entre vos deux textes, c'est le fait que vos deux travaux s'accordent, ou en tout cas s'ajustent, à un langage préexistant. Chez vous, Pierre, c'est le langage de la chasse, qui est un langage assez codifié, mais surtout un langage qui a développé toute une série d'éléments de langage, qui a développé une sorte de greenwashing, hein, en faisant de la chasse une défense des écosystèmes, un outil de connaissance du monde du vivant, etc. Et chez vous, Fanny, ce travail, qui est un travail d'ajustement corrosif aussi, est peut-être un peu plus large, un peu plus fondamental, parce que vous allez montrer comment l'ensemble de notre langage ordinaire est en quelque sorte porteur de toute une idéologie. Chez vous, Pierre, c'est le langage de la chasse, et chez vous, Fanny, c'est notre langage à tous, et notamment dans un passage, si vous pouvez le lire, hein, qui commence par une très belle formule, « Notre langue est un outil de propagande ».
D'accord. Je compile 41 synonymes du mot « animal » proposés sur Internet, tant dans les dictionnaires, parmi lesquels les plus traditionnels possibles, dont les versions papier sont toujours distribuées dans les collèges du pays, que sur des sites de mots croisés. Cette liste pourrait à elle seule faire l'objet d'une étude philosophique, tant chaque mot est révélateur du regard humain sur ses espèces cousines. Abruti, ballot, benet, bétail, bête, bestial, bestiole, brutal, brute, butor, charnel, cheptel, créature, cruelle, faune, fauve, gibier, grossier, idiot, inconscient, inné, instinctif, involontaire, irréfléchi, latent, machinal, matériel, monstre, organique, pécor, physique, punaise, sauvage, sensuel, simplet, spontané, stupide, tangible, terrestre, troupeau, végétatif.
Alors, on voit que votre travail de poétesse aussi joue à l'intérieur de ce travail de la liste. La question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est, en fait, votre travail, c'est aussi un travail de contre-langage, de suscitation d'une véritable sens, d'un véritable sens aiguisé, de lucidité envers les présupposés des langages que nous véhiculons et que nous utilisons. Et c'est peut-être de se demander si, dès lors, votre travail n'est pas aussi un travail de dévoilement, hein, de ce qui peut être l'inconscient du langage ordinaire, ou au contraire, d'une conscience très manipulatrice, hein, de l'idéologie de la chasse.
Clairement, à la chasse, on ne tue pas d'animaux, on les prélève. Bon, rien que ça, on se dit, bah, quelqu'un qui vient avec une petite pince qui prend un animal. Dans l'élevage, qui déjà le mot ne convient pas, comme vous l'avez dit, On travaille sur le bien-être animal. Donc vous avez par exemple, parce que je ne m'intéresse pas qu'à la chasse, j'ai beaucoup aussi, on a beaucoup enquêté sur le terrain, notamment sur des pratiques d'élevage. Bon, j'utilise le terme de façon simple, mais par exemple, vous avez beaucoup d'améliorations qui sont proposées pour le bien-être animal. Alors, un lapin qui vit l'entièreté de sa vie, sauf au moment où on l'emmène jusqu'à l'abattoir dans une cage grande comme la moitié de cette petite table, eh bien, en faveur du bien-être animal, on va lui rajouter une petite planche surélevée ou un endroit où il n'aura pas les pattes sur du plastique, sur de la grille, mais sur du plastique, sur 20 cm de large, sur 10 cm. Et ça, c'est pour le bien-être animal. Donc, effectivement, le langage est complètement mystificateur ou trompeur, ou, et de façon volontaire, trompeur. Donc, nous autres, et on est très nombreux, tous les militants dits de la cause animale, je n'en suis qu'un parmi plein, essaye de montrer que le réel, ce n'est pas les mots qu'on met dessus, quoi.
Il y a le mot régulation aussi.
À la chasse, on régule, ouais. Oui. Parce que, alors, pour le cas de la chasse, elle n'arrive plus à se justifier en tant que telle. On ne peut plus dire, politiquement ou socialement, ça ne passe plus de dire « je vais à la chasse parce que j'aime chasser ». Donc ça fait des 20-30 ans que les chasseurs, via le lobby de la chasse et leur structure pyramidale, essayent de créer des éléments de langage et de créer des arguments pour justifier leur pratique. Donc ils essayent de se positionner comme étant d'intérêt général. Alors, en disant « on régule la faune sauvage », on n'a pas le temps ici, mais on pourrait détailler en cas par cas, est-ce que c'est vraiment une régulation, pourquoi, est-ce un bon objectif, y a-t-il d'autres moyens de le faire? Bon, on ne peut pas le développer là, mais c'est des questions qui se posent et qui ne sont jamais posées. Et les chasseurs se posent en défenseurs d'un intérêt général et en niant complètement l'impact concret de leur pratique, qui reste en fait, alors il faut le dire, je m'intéresse à la chasse, mais l'impact de la chasse en nombre d'animaux tués est absolument dérisoire par rapport au nombre d'animaux qui sont dans des élevages. Si on prend l'échelle française, c'est officiellement 20 à 30 millions d'animaux tués par an à la chasse. C'est de l'ordre de quelques pourcentages infimes des animaux qui sont tués dans d'autres conditions pour la consommation. Une grande partie des animaux tués à la chasse ne sont pas consommés, d'autres le sont. Et après se pose la question, je pense, si on veut être vraiment très très concret, pragmatique, de la nécessité ou pas de consommer ces animaux, parce que les éleveurs disent, mais nous on nourrit les gens, là, on sort du salon de l'agriculture, on n'est plus dans un domaine littéraire, mais très très concrètement, les gens qui, comme moi, sont à la campagne, on voit le paysage constitué de champs parsemés de temps en temps d'un bâtiment, c'est-à-dire concrètement un hangar métallique, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et c'est ça l'immense majorité de l'élevage en France comme ailleurs en Europe et dans le monde. Et quand on a, je dirais pas la chance, mais l'occasion de rentrer dans un de ces bâtiments, c'est vraiment l'enfer, mais au sens fort du mot, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que vous avez des animaux qui sont en souffrance du début à la fin de leur vie, qui vivent à plusieurs milliers dans un hangar, dans une odeur absolument pestilentielle, dans un bruit assourdissant. On leur a complètement ôté la possibilité d'avoir une vie, je sais pas comment, une vie digne de ce nom, quoi. Et l'élevage, c'est ça. Et donc, ça veut dire que, concrètement, les quelques vaches qu'on voit dans les prés, les quelques moutons qu'on voit dans les prés sont hyper minoritaires dans la production de chair. Et donc, si on veut essayer de répondre à la question, enfin, il n'y a pas vraiment de question, mais si on veut essayer de se dire, à mon avis, comment changer les choses, pour le dire hyper simplement, faut peut-être, je penserais vraiment, réfléchir au but, c'est-à-dire est-ce bien nécessaire de consommer autant de chair animale, voire d'en consommer tout court? Est-ce bien nécessaire de réguler à la chasse? Et finalement, c'est à mon avis la même méthode, si on peut dire, qu'on doit appliquer dans tous les thèmes liés à l'exploitation des animaux, parce que la chasse, c'est une forme d'exploitation des animaux, comme il y en a beaucoup d'autres.
Alors, peut-être que je peux rebondir avant de vous redonner la parole immédiatement, mais on a entendu dans la manière dont vous avez présenté l'élevage exactement, je dirais, votre stratégie à l'intérieur du livre sur la chasse, c'est-à-dire que le mot et les mots des chasseurs sont des atténuations, sont des voiles, sont des dissimulations, et tout l'enjeu de votre travail, c'est de rendre une chair, rendre une sensibilité, rendre une manifestation sensible à ce que les mots recouvrent ou occultent. Derrière le mot élevage, angoisse, bruit, odeur, etc., etc. C'est-à-dire que derrière le mot, il y a une sorte de puissance sensible que vous essayez de faire voir, de rendre appréhendable par vos lectrices et vos lecteurs.
Écoutez, moi, j'ai aucune prétention artistique. On essaie juste d'avoir un peu d'efficacité comme on peut. Et c'est très très compliqué. Ce matin, j'étais en forêt de Fontainebleau pour essayer de montrer la chasse à courre qui est encore à l'œuvre jusqu'à la fin du mois de mars. Et donc, alors, la chasse à courre, c'est un bon exemple, la grande vénerie, parce qu'on est vraiment dans les beaux costumes, les concerts de trompes de chasse, il y a vraiment tout un décorum et tout un vocabulaire sur la vénerie. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui se défend comme ça, en fait. C'est-à-dire la grande vénerie, comme ils disent, ils se défendent par le côté... promotion d'une certaine culture, des beaux habits, des chevaux. Et puis en fait, quand on montre des choses très très concrètes, là ce matin, il y avait un cheval qui boitait. Il avait vraiment une déformation au-dessus du sabot qui fait que dans n'importe quel, même centre équestre, ce cheval-là ne devrait même pas être, on ne devrait pas monter dessus. Bon, déjà, doit-on monter sur les chevaux de façon générale, mais pour être entendable. Ce cheval-là, typiquement, il était vraiment maltraité, en plus de la maltraitance ordinaire que peut constituer son utilisation en tant que mobilette à la chasse à courre, parce que franchement, il l'utilise comme ça pendant des heures. Et en plus, il n'était même pas sortable théoriquement. Alors donc, effectivement, nous, on est là avec d'autres. On essaye de filmer le sabot du cheval qui boite. Et parce que ça sera jamais dans le tableau idyllique de la grande vénerie. Voilà.
Et notamment, dans votre livre sur la chasse, il y a tout un développement sur la chasse à l'épieux. Et vous essayez de nous expliciter ce que ce mot épieux recouvre et quel geste incroyablement sanglant il vient dissimuler. Hein, c'est le mot dissimulation. Il y a chez vous, Fanny, avant de revenir peut-être sur dimension inconsciente ou idéologique, il y a aussi chez vous un même souci de donner à voir. Je pense à un très beau passage où vous revenez sur qu'est-ce que c'est que la taxidermie. Et vous redéployez toutes les différentes étapes pour nous faire comprendre ce que ce petit mot peut dissimuler en termes d'action à l'intérieur du corps vivant. Pour continuer sur la question du langage, moi, il me semblait qu'un des enjeux en vous lisant, on entendait le mot animal, on peut entendre aussi le mot spécimen qui est déplié à l'intérieur de votre travail, c'est que votre travail, c'est un petit peu le LTI de Klemperer. Hein, vous savez, cette Klemperer qui montre comment la langue est une langue en quelque sorte porteuse d'une idéologie incroyablement, puissante de la manière de modéliser nos représentations, et que vous essayez de réinscrire une certaine distance critique par rapport à ce langage, une certaine puissance de jeu, non pas en termes ludiques, mais en termes d'espacement. Dans ce langage, pour pouvoir vous ressaisir du langage dans un geste de réappropriation d'un langage qui nous est confisqué, en quelque sorte.
Oui, et j'essaye aussi de revenir sur des mots qu'on utilise sans vraiment y penser, et d'aller revoir leur définition. Par exemple, moi aussi, je parle du verbe « prélever », et comme je trouve aucune définition dans les dictionnaires, parce que ça, c'est assez récent, il y a tous les mots qui sont les fondations de notre pensée, qui sont les garants d'un certain immobilisme de la pensée. Il y a aussi tous les mots nouveaux qu'on invente pour mentir, effectivement, et pour manipuler la perception que l'on a d'actions qui sont innommables. Et donc, j'ai cherché un mot qui me semble assez proche et qui est plus ancien. Donc, on peut avoir l'autre sens. C'est le mot abusé. Et c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte, en cherchant prélever et en ne le trouvant pas, et en cherchant abuser, qu'en fait, peu de dictionnaires mentionnent le fait que ça peut vouloir dire violer. Il y en a un seul que j'ai trouvé qui le fait. Je peux lire un petit extrait ? Vite fait. Hein. L'idée m'est alors venue de consulter les définitions d'un euphémisme plus ancien, le verbe abuser. Un seul dictionnaire mentionne le sens que je cherche. Donc abuser de quelqu'un, par euphémisme, violer. Outre que cet euphémisme est très discret dans la page dévolue à l'abus, sans même une citation à titre d'exemple, quand toutes les autres définitions en ont au moins une, parfois jusqu'à trois, faut-il supposer que les autres dictionnaires incluent le viol dans l'une des trois définitions suivantes ? 1. User mal de quelque chose, en user avec excès ou en tirer un profit excessif. 2. Exagérer, dépasser la mesure. 3. Profiter avec excès de la bonté de quelqu'un, de sa patience. Alors disons que prélever les animaux, c'est les extraire de leur habitat pour profiter avec excès de leur patience. A. En les cuisinant. B. En les laissant jaisir à l'endroit où leur vie a été interrompue quand elle ne l'a été que dans une perspective ludique. Ou C. En les empaillant. La catégorie B servant au XXIe siècle à celles et ceux qui ne souhaitent pas prélever pour naturaliser.
Alors tout à l'heure, Fanny, vous disiez que le musée était en quelque sorte une métonymie pour venir décrire, venir ausculter notre rapport au vivant. Il me semble qu'à travers un passage comme celui-là, on pourrait aussi dire que la manière dont vous montrez, dont vous analysez le rapport au vivant est aussi une métonymie d'une société marquée par la domination. C'est-à-dire que dans votre récit, vous évoquez le rapport de l'ethnographie au colonialisme. Ici, évidemment, c'est toutes les formes de violence masculine qui se jouent à travers la société. Comme s'il y avait, à travers la question de la saisie du vivant, une manière de mettre en évidence ces dominations incroyablement structurantes de notre société.
Oui, pour moi, tout est lié, en fait. C'est, dès lors qu'il y a un petit groupe d'individus qui décident d'avoir une suprématie par rapport aux autres, enfin, sur les autres, tout est biaisé. Et tout est biaisé depuis si longtemps et de manière si profonde qu'on ne remet jamais en cause certains présupposés.
Alors évidemment, cette question-là, elle amène peut-être à rebondir avec vous, Pierre, sur la dimension masculine de la pratique de la chasse.
Alors les chiffres sont assez clairs en France. Selon les chasseurs eux-mêmes, 98% des chasseurs sont des chasseurs. Enfin, il y a 2% de chasseuses ou de chasseresses. D'ailleurs, c'est marrant parce que, pour parler des termes, le terme de chasseresse revient un peu. Avant, on disait chasseuse, mais c'était moins élégant. Alors maintenant, pour essayer de rendre la pratique attractive pour une cible femme, hein, c'est vraiment dans les stratégies du lobby de la chasse, on parle de chasseresse parce qu'il y a, je sais pas, il y a un côté un peu magique. Mais alors c'est, ah oui, non, on est vraiment dans un je sais pas comment vous dire, pour reprendre, puisque c'est ce matin en forêt de Fontainebleau, en gros, je me fais insulter, mais c'est normal, ça, j'étais là, bon, il me voit, il m'insulte, bon, c'est le quotidien, mais les insultes, je vais pas les dire ici, mais c'est vraiment des insultes, je sais pas comment on dit, ultra masculinistes, je n'aime pas le terme, mais enfin, c'était un cliché, quoi, c'est festival de clichés. Dans les injures, les menaces qu'on reçoit, il y a en permanence des histoires de testicules, mais même dans les mots, c'est assez drôle. Et dans la pratique, ouais, c'est d'une violence dominatrice, je sais pas comment dire ça plus clairement. C'est-à-dire, dans la pratique de la chasse, on a vraiment l'écrasement de l'animal qui passe du statut de bête sauvage et lointaine et inaccessible, en oubliant qu'en fait il y a quand même des millions d'animaux qui sont élevés dans des fermes usines pour être lâchés dans la nature, pour être chassés, mais enfin il y en a beaucoup qui sont sauvages entre guillemets et qu'on réduit à vraiment un défouloir pour une partie des gens, avec le côté il faut entraîner les jeunes enfants au plus tôt à pouvoir achever le sanglier à l'arme blanche. Non, c'est d'une violence redoutable.
Il me semble que dans vos deux textes, évidemment, la question de l'enquête est véritablement une question absolument prégnante. Si je rappelle au public le dispositif de votre texte, Fanny, c'est à la fois, je dirais, une dimension plus essayistique, plus méditative, et puis alterne ces scènes pour tenter de sauver les canetons. Il me semble que dans cette alternance entre l'essai et le récit, il y a aussi une alternance entre quelque chose comme une enquête bibliographique, une enquête philosophique, une archéologie du musée, de ses pratiques, et puis une sorte de contrepoids à cette enquête, je dirais, dans les outils un petit peu éthérés du savoir, un peu, beaucoup d'enquêtes numériques d'ailleurs dans ce que vous proposez, une sorte de lestage. Hein, de cette enquête sur mais qu'est-ce que ça donne dans le concret, ce rapport aux animaux dans une situation singulière, dans cette retenue d'eau d'un supermarché. Comme si cette alternance entre essai et récit, c'était aussi une alternance entre un travail plus conceptuel et puis une nécessité de venir territorialiser ce savoir pour rendre compte de ce qu'il veut dire.
Ce que je voulais faire, c'était vraiment me servir de la littérature pour aller vers le réel. Donc, on est vraiment dans la thématique du festival, parce que on a eu un peu cette discussion au téléphone l'autre jour, et on n'était pas tout à fait d'accord sur l'usage et la nécessité de réhabiliter le mot bête. Le mot bête qui me rend hystérique. Vraiment, ça me donne. À chaque fois que je lis le mot bête dans un livre, j'ai des décharges électriques. Vraiment, c'est terrible. Et en fait, je comprends tout à fait que des auteurs dont vous m'avez parlé essayent de réhabiliter ce mot et de l'investir d'un nouveau sens. Je comprends tout à fait le type de démarche. Mais à un moment, en fait, quand on parle d'une souffrance indicible, on ne peut pas faire de la littérature autour de cette souffrance. Il faut aller parer au plus pressé, à savoir, il faut déminer le langage de tous ces mots qui vont vraiment limiter la pensée, qui vont la cadrer dans « c'est une bête ». Tout le monde sait de quoi c'est synonyme « bête ». Et donc, il faut liquider ce mot, et il faut le remplacer. Et c'est tout. Plus tard, peut-être qu'on pourra le réhabiliter, mais pour l'instant, la question, ce n'est pas une question de poésie. La question, c'est de se mettre au service d'une cause. Cette cause, c'est celle d'êtres qui n'ont pas le pouvoir de se faire entendre par leur bourreau. Et donc, il faut qu'on se mette à leur service. On revient un petit peu à ce qu'on disait au début, en fait. Hein. Mais c'est très compliqué. Mais je pense que c'est une exigence qu'il faut avoir, que ça commence par là. C'est vraiment essentiel.
En vous lisant et en vous regardant aussi, Pierre, il me semble qu'il y a aussi ce balancement entre une incroyable précision chiffrée, vous êtes très impressionnant dans la capacité à mobiliser mentalement une documentation, une précision statistique, on l'a vu encore tout à l'heure, hein, et puis en même temps, le fait que vous soyez un naturaliste de terrain. Et j'évoquais lors d'une discussion avant que ne commence cet entretien une vidéo sur YouTube où vous commentiez un reportage autour de la présence du loup et où j'étais absolument fasciné par la manière dont ces chiffres que vous les donniez en marchant, vous les donniez sur le terrain, comme si pour vous il y avait toujours, je dirais, une nécessité aussi de venir réancrer tout le savoir que vous aviez accumulé, mais sur le lieu même où ce savoir peut être utile.
Alors, j'en reviens aussi, justement, tout à l'heure, je me souviens plus du chiffre. Alors, en fait, de façon très pragmatique, pendant 10-15 ans, mon travail, comme plein d'autres de mes collègues qui font ça encore aujourd'hui, c'était, je sais pas, d'inventorier des crottes de campagnols. Enfin, c'était d'inventorier des champs d'oiseaux pour dire il y a telle espèce à tel endroit, parce qu'une route va être construite, il faut voir s'il n'y a pas une espèce classée protégée et faire un dossier de dérogation pour ci ou ça. Enfin, des choses comme font tous mes collègues avec une formation scientifique, qu'on essaie d'être précis. Sinon, ça n'a pas de valeur ce qu'on produit. Alors maintenant, effectivement, depuis pas mal d'années, j'essaie de documenter des pratiques de chasse notamment. Alors ça implique d'aller sur le terrain et puis même pour pouvoir adresser un message, en fait, on prend les outils qu'on peut et je n'ai rien inventé là-dedans. C'est-à-dire, dès qu'on est sur les réseaux sociaux, on est obligé de se montrer ou de faire de l'image ou d'aller sur le terrain ou de montrer le réel. Comme je parlais, je prenais tout à l'heure l'exemple du sabot de cheval, du seul cheval qui boite. Il faut qu'on montre le réel, donc on est obligé de le faire. Il faut que ça soit actif, percutant, dynamique. J'aimerais pouvoir me contenter de mots et là, ça ne suffit pas. On n'arrive pas à suffisamment produire de choc. Est-ce que concrètement, dans l'activité militante, vous auriez n'importe quel militant de la cause animale, antispéciste ou écolo de terrain, il voudrait peut-être sensiblement la même chose que moi. C'est-à-dire, nous, on veut que des lois changent pour, sur les sujets qui nous préoccupent, diminuer le niveau de souffrance, par exemple. Est-ce que si on réduit tel élevage, si on réduit telle chasse, on diminue le niveau de souffrance? C'est un objectif louable, un horizon louable de le diminuer le plus possible. Alors pour ça, il y a la voie politique. Pour être entendu par des politiques qui vont avoir en charge de produire tel amendement ou telle réglementation, il faut qu'on puisse interpeller. Pour pouvoir interpeller, il faut qu'on ait une sorte de place médiatique. Pour pouvoir avoir une place médiatique, moi, je ne suis pas invité quasiment, et je suis très content d'être là, mais généralement dans les gros médias, je ne passe pas au journal TF1 de 20h. Quoi. Je n'ai pas la carte pour rentrer là-dedans. Donc pour pouvoir amener les débats là où les mots ne suffisent pas, ben, on va sur le terrain, on est dynamique, on montre les choses et on essaye d'enclencher comme ça des réactions avec la difficulté très concrète qui est que la réalité, souvent sordide qu'on essaie de montrer, ben, beaucoup de gens, et c'est complètement compréhensible, n'ont pas envie de la voir. Donc, y compris des journalistes d'ailleurs n'ont pas envie de la montrer. Et ça, beaucoup de nos journalistes m'ont dit, mais on ne peut pas montrer ça à la télé, en fait, les gens zappent. Mais nous aussi, sans doute, on zapperait si on voyait ça. Donc c'est très compliqué, parce qu'on veut montrer une réalité sordide dont l'espèce humaine, ou en tout cas les gens qui décident de ces choses-là, sont totalement responsables. Et pour pouvoir la montrer, on va sur le terrain, on montre des choses qui sont choquantes, objectivement choquantes. Et ensuite, eh ben, on essaye de trouver une place pour que ça sorte médiatiquement, pour qu'ensuite on ait une réaction politique. Et très concrètement, par exemple, une députée d'une région qui me dit « Ah, j'ai vu votre vidéo sur l'élevage, un élevage de faisans pour la chasse. » Vous savez, sans doute, on fait naître vraiment des millions de faisans et de perdrix dans des fermes-usines en France pour les larguer dans la nature, la campagne, et pour tirer dessus. Et donc, par exemple, cette députée me dit « J'ai vu vos images. Pourtant, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Je ne savais pas que ça existait. » Et je ne vous raconte pas comment c'est compliqué d'obtenir ces images-là. Donc, c'est évidemment un travail de terrain. Franchement énorme. Plein de gens font ça sur d'autres sujets. Et pour arriver à interpeller des politiques qui, à la fin, vont dire « Oui, c'est vrai, il faut qu'on modifie la loi », puisque l'objectif final est quand même que ça ait un impact très, très concret. Et donc, on arrive parfois à obtenir des petites choses, mais c'est vrai que j'ai complètement dévié par rapport à la question, pardon. Mais c'est hyper dur d'arriver à avoir un poids politique sur ces sujets-là. Mais on arrive quand même à obtenir des petits changements, voilà.
Moi, ce que j'entends aussi dans votre propos, c'est la nécessité d'une présence du corps et du corps sensible pour venir en quelque sorte faire lien avec lectrice-lecteur, spectatrice-spectateur et pouvoir en quelque sorte entrer, non pas en empathie, mais voir depuis vos yeux. Il me semble que cette présence du corps, elle est nécessaire. Je voudrais poser une dernière question avant de permettre au public d'en poser. La question de la cohabitation. Il y a une formule qui clôt, pour ainsi dire, votre texte, Fanny, et qui est une très belle formule, mais aussi très, très sombre, me semble-t-il. Ce que tu viens de m'apprendre, Sus Crofa, c'est que je ne suis pas chez moi, chez toi, que je suis une représentante de l'espèce dominante, l'ennemi, que je le veuille ou pas. Je suis, tant mieux, et tant pis pour moi, de l'espèce qui ne s'empaille pas. Évidemment, c'est cette formule que je trouve tout à fait saisissante, hein, l'espèce qui ne s'empaille pas, mais surtout celle-là, c'est que je ne suis pas chez moi, chez toi. Comme si les espaces entre l'espace humain et l'espace animal ne pouvaient pas s'interpénétrer, se côtoyer, se juxtaposer, parce qu'il y avait nécessairement une domination, une violence, voilà. Et c'est cette question-là que j'aimerais vous poser pour se demander si, à moyen terme, des formes de cohabitation sont envisageables. Alors, je repense à ce reportage sur les loups, et où vous montriez, Pierre, que c'est parce qu'il y a les loups qu'il y a des bergers.
Peut-être j'ai zappé, mais Sus Crofa, c'est le sanglier. Peut-être, je ne sais pas si vous l'avez dit, ouais, pour qu'on comprenne. Oui, la cohabitation. Oui, c'est parce qu'il y a des. C'est en grande partie parce qu'il y a des loups qu'il y a des bergers. C'est vrai qu'on entend souvent dans des reportages assez basiques, de mon point de vue, des bergers qui disent, à juste titre, c'est très difficile d'élever des moutons dans la montagne quand il y a des loups, et techniquement, c'est compliqué. Et c'est vrai, parce que les loups vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de déjouer toutes les barrières qu'on leur a mises, tous les répulsifs, ou en tout cas les chiens qui les repoussent, etc. Mais. Je me souviens de réunions à n'en plus finir avec les différents représentants, les préfets qui disent, il y a les associations de protection de la nature, les chasseurs, les éleveurs, les représentants des parcs nationaux qui se mettent autour de la table. Alors, le nombre de fois où on se met autour de la table pour finalement n'avoir aucun pouvoir de changer quoi que ce soit, bon bref, je passe, et qui disent, oui, mais par exemple, dans cette pente terrible dans telle montagne du Mercantour, c'est tellement pentu, c'est toujours brumeux, humide. On n'arrive pas à faire un élevage de moutons là parce que les loups, quand même, ils sont vraiment redoutables dans leur capacité à finalement à titiller l'éleveur pour arriver à capturer des brebis. Et donc, il faut vraiment éliminer les loups à cet endroit-là. Alors, j'ai essayé de glisser, comme d'autres, mes collègues, mais peut-être que si techniquement élevé, on va garder ce terme pour faire simple, des moutons à cet endroit-là, c'est trop compliqué, peut-être on peut arrêter de le faire à cet endroit-là. Et ça, c'était inentendable. C'est-à-dire, en fait, il y a vraiment cette volonté d'écrasement qui est incroyable. C'est-à-dire, il faut que l'être humain exploite absolument tout jusqu'à la dernière parcelle de haute montagne où il y a une touffe d'herbe. Il faut qu'elle soit mangée, cette touffe d'herbe, par une brebis pour que la brebis finisse en côtelette. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, c'est vrai que la cohabitation, on essaye, des collègues comme moi, naturalistes, écologues, d'essayer de dire qu'on peut cohabiter techniquement entre des loups et des activités humaines. Mais je vous avoue que j'ai même plus tellement envie de dire, alors je sais que c'est peut-être difficile à percevoir, mais j'ai vraiment plus tellement envie, je trouve que ce n'est plus pertinent de dire il faut qu'on puisse cohabiter vraiment entre l'élevage et les loups. Je pense qu'il faut qu'on essaye de penser, qu'on essaye à chaque fois d'établir dans ce qu'on veut faire de l'utilisation de l'espace, ce dont on a besoin. A-t-on besoin de côtelettes d'agneau, en fait ? Et à partir de là, on se dit comment on peut cohabiter avec tel animal en tant qu'individu ou telle population d'animal ou telle espèce animale selon ses besoins à eux, à lui, à elle. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, dans le milieu, par contre, naturaliste ou écologue d'où je viens, là, c'est pas tellement encore entendable parce que dès qu'on parle de cohabitation, ça va être toujours l'élevage et le loup, ça va être toujours... les pires des activités humaines, mais en faisant en sorte qu'à la marge, on détruise pas tout, pour faire simple. Alors, la cohabitation, je pense qu'elle pourra exister quand on se posera nos limites, en fait. Et pour l'instant, on se pose pas de limites. C'est-à-dire, pour prendre mon petit exemple, il faut mettre des moutons partout. Tu vois, comme s'il fallait mettre des cultures de maïs intensifs partout, même là où il y a pas d'eau, c'est aberrant, en fait. Et alors, par contre, je ne sais pas dire d'où ça vient tout ça. Enfin, d'où ça vient notre folie, en fait, de vouloir tout dominer. C'est un truc. Voilà. Je sais.
Tout espace qui n'est pas fonctionnel est considéré comme une dent creuse. Et quand il y a une dent creuse, Homo sapiens a besoin de la plomber. C'est comme ça. On a besoin d'exploiter, on a besoin de donner un sens. Et ce sens passe par qu'est-ce qui pourrait nous être utile ou agréable à nous, Homo sapiens. On a cette incapacité totale à laisser en paix, et encore, hein, quand on dit en paix, c'est une paix relative, parce que la vie des animaux sauvages, elle n'est pas toute rose. Les prédateurs et les proies existent en dehors d'Homo sapiens, évidemment, mais quand j'écris « Je ne suis pas chez moi, chez toi » au sanglier, pour moi, c'est aussi une manière de dire en fait, la nature n'existe plus. Hein, on a tout anthropisé, ça n'existe plus, la nature. Donc, il faut déjà arrêter. Il faut arrêter de dire aussi qu'on va revenir à un état antérieur où il y avait des grands équilibres parce que ça n'a jamais vraiment existé. La vie a toujours été mouvante. Et il n'y a pas eu un état où tout était harmonieux et paradisiaque. Et puis, à un moment, ça a commencé à moins aller. Non, en fait, il faut juste attribuer aux animaux non humains un espace où ils puissent vivre comme nous, on a les nôtres, on a nos grandes villes glorieuses, comme Paris par exemple, une grande ville glorieuse avec une densité de population folle. Laissons aussi des espaces pour les autres espèces, en fait. C'est une question de justice, tout simplement. Et c'est là que j'achoppe constamment, c'est comment ça n'empêche pas les gens de dormir, de vivre dans un monde où on va dire que je crois que c'est de l'ordre de 60% des êtres vivants vivent un cauchemar parce qu'on a décidé de ça, parce qu'on a le moyen de faire de leur vie un cauchemar. Quand on est militant antispéciste, qu'on est anti-chasse, qu'on est adhérent à L214, qu'on voit toutes les images, en fait, on se demande comment l'imagination humaine, comment la cruauté peut aller jusque-là. C'est quand ça s'applique à un être humain, on en fait un film d'horreur. En fait, la vie de la plupart des gens sur cette planète est un film d'horreur. Mais parmi les trucs pour les interdits aux moins de 16 ans, quoi, c'est horrible. Moi, quelquefois, je me réveille la nuit, j'ai l'image d'une vache qui est emportée par la patte. Et puis qui est ballotté comme un objet pour qu'on l'emmène à un endroit où on va la découper, parfois même sans l'avoir tuée. Et je me dis, comment on peut se faire des priorités dans la vie d'avoir le dernier iPhone. Je prends cet exemple parce que je suis aussi assez souvent confrontée à des gens pour qui les urgences du moment sont vraiment très, très à l'opposé des miennes. Et en fait, on cohabite. Nous, humains, on cohabite entre nous, ce qui est déjà énorme, en fait. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont militants, et je reviens là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont militants pour des causes qui sont super importantes, on peut ne pas être monotâche, on peut militer pour les droits des femmes, pour les droits LGBT, pour ceci, pour cela, et c'est mon cas d'ailleurs, et on peut aussi militer pour plus de justice pour les autres espèces, c'est-à-dire l'antispécisme, pour moi, c'est un hyper antiracisme. Et c'est important qu'on s'ouvre aux autres, parce que sinon on est complice de quelque chose qui est vraiment d'une incroyable monstruosité. Et je me permets de le dire parce que je sais que tout le monde n'a pas le courage de regarder ces images-là. Moi je les regarde, elles me traumatisent, mais je ne peux pas vivre sans, en faisant semblant que ça n'existe pas. Je ne peux pas, en fait. Mais après, on est tous très différents.
Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Pierre. Le dernier mot de Fanny permet, me semble-t-il, d'illustrer qu'il n'y a pas d'antinomie entre militantisme et littérature, et qu'il y a une littérature d'une grande qualité, d'une grande puissance, mais qui est aussi une grande puissance d'implication à l'intérieur de la société. Je vous invite à continuer cette discussion au moment de la dédicace avec Pierre et avec Fanny. Et je vous rappelle qu'il y a à 17h une rencontre en hommage à Janet Malcolm avec Jakuta Alikavazovic, Adrien Bosque et Ariane Chemin. À tout de suite pour la dédicace et pour la discussion qui se continue. Un grand merci encore.